cinéma.
Ma chi è?
Nel momento.
Un cinéma qui toujours innove, qui expérimente et qui soit le reflet de son temps.
CD as a character within the movie. Now would it
say? Vous tournez très vite, je crois.
En général, assez vite. Oui. Moi, je trouve pas. Je trouve que les autres qui tournent assez lentement.
Cinéma. Cinéma. Oui, je sens, je sens que je suis cinéma. Cinéma.
À partir de maintenant et jusqu'à 19h, c'est le Feed Mag sur Radio Grenouille en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée, à l'occasion de la 23e édition du Feed Marseille, qui se déroule donc dans plusieurs lieux de la ville jusqu'au 9 juillet prochain. Donc des films en compétition, en sélection parallèle, une bonne 150aine de films. Chaque soir, nous avons des chroniqueurs qui interviennent, qui sont allés dans les salles et qui viennent nous raconter un peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils en ont pensé, de ce qu'ils ont vu. On a également des réalisateurs qui nous accompagnent pendant toute cette heure de magazine. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Lamin Amar Khodja, qui est le réalisateur du film Demande à ton ombre. Bonsoir Lamin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est un film qui est une sorte de journal qui se déroule entre les années 2010 et 2011, qui est principalement en Algérie, qui traverse comme ça des moments importants, puisque ça a été les moments du printemps arabe. Et c'est un jeune homme qui cherche un peu quelle est sa place dans tous ces événements et dans la vie en général. Voilà. Donc on va parler de ce film avec Lamin. On aura également comme chronique Laure Dieudonné, qui est allé rencontrer les gens de Peuple et Culture, qui organise un point de vue sur le documentaire en partenariat avec le FID pendant cette semaine. Et donc, nous dirons deux mots de cette semaine de réflexion sur le documentaire. Tulia, on l'accueille pour la première fois dans ce magazine. Elle va nous parler. Alors, si vous êtes venu au FID, vous avez vu qu'avant la projection des films, il y a des petits spots noirs et blancs, pointillistes, qui sont projetés, signés Alexander Chello. Tulia accompagne le travail de cet artiste depuis pas mal de temps. Elle nous dira quelques mots donc sur ces spots. On entendra également Cinébé, qui sont allés voir plusieurs films. Ils vont parler de plusieurs films ce soir, Philippe et Bernard. Et on entendra Claire, qui une interview de Gwendal Sartre, qui présentait son film Song Song hier, première projection hier au FID Marseille. Gwendal Sartre est un étudiant de troisième année de l'École des Beaux-Arts de Lumini et qui a fait un film plutôt impressionnant. Et enfin, Thomas nous dira quelques mots d'un film asiatique. Toujours sa série sur les films asiatiques. Ce soir, il est allé voir, enfin aujourd'hui, il est allé voir un film coréen qui s'appelle Dictée. Il nous en dira quelques mots. Mais quelques questions à Lamin Amar Khodja. Donc, pour commencer, ce film Demande à ton ombre se conclut sur une phrase de Camus, je crois. Hein, c'est lui qu'on entend.
Plutôt d'Aimé Césaire, oui.
Ah, Aimé Césaire, qui dit. C'est le cri d'un homme jeune et désorienté et se cherchant et cherchant une voie. C'est ça le projet du film ?
Je ne sais pas si c'est ça le projet du film, mais en tous les cas, j'ai l'impression que Aimé Césaire, quand il a écrit un peu son cahier de retour au pays natal, j'ai l'impression qu'il a écrit justement, qu'il a tenu ce cahier un peu pour se donner du courage de revenir. Et j'ai l'impression qu'il a tenu un peu à être lucide sur la situation un peu catastrophique de son pays. Et c'est à partir du moment où il prend conscience de ce côté un peu catastrophique qu'il se donne le courage justement de pouvoir revenir. Et c'est un peu le point zéro, le point de départ, quoi. Et donc, en tous les cas, quand moi je suis revenu, j'ai beaucoup eu ce sentiment-là. C'est que j'avais l'impression que, en faisant le film...
Vous êtes revenu, c'est-à-dire vous étiez en France et vous êtes retourné en Algérie, c'est ça ?
Exactement, ouais. Après 8 ans. Et j'avais un peu la même distance et en même temps la même envie de reparticiper, revenir, quoi. Et retrouver une place parmi les miens, quoi. Mais ça a été un peu plus compliqué que ça.
C'est un film qui se déroule sous, on va dire, les Les ombres tutélaires d'Aimé Césaire, on vient d'en parler, mais aussi de Camus et de La Chute. Alors, deux romans particuliers, Césaire, c'est Cahier d'un retour au pays natal, Camus, c'est La Chute. Que représentent ces deux romans? Enfin, là, vous venez de parler de celui d'Aimé Césaire, mais que représentent ces deux écrivains et La Chute de Camus pour vous?
Camus, c'est plus par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a... qu'il est ni en Algérie ni en France. C'est-à-dire que les Algériens lui en veulent beaucoup par rapport au fait qu'il n'a jamais vraiment tenu de position claire par rapport à la guerre d'Algérie. Et on lui en a beaucoup voulu pour son silence. Du coup, pour les Algériens, il lui avait un peu réglé son compte, quoi. C'était un Français. Et en arrivant en France, il a jamais vraiment trouvé sa place puisqu'on le considère un peu comme un Algérien. On savait pas trop, et du coup c'est cette position ambiguë qui me plaisait bien. Donc, et puis ça me plaisait aussi de réhabiliter un peu Camus, parce que je crois qu'aujourd'hui, enfin, surtout pour ma génération, j'ai l'impression qu'on peut juste prendre l'œuvre comme elle est, une idéologie à part, quoi.
Il y a aussi Bob Dylan dans le film, Kateb Yassin. Donc musique, littérature, et bizarrement, vu les références qui sont mises en avant, les citations, il n'y a pas de citation cinématographique. Il n'y a pas, pour le cinéaste que vous êtes, il n'y a pas de référence cinématographique.
Bah, bien vu, parce que j'ai bien l'impression que je suis pas... Enfin, moi, je viens pas vraiment des films, quoi. Je viens plutôt des livres. Je suis plus un liseur de livres qu'un regardeur de films, quoi.
C'est-à-dire, alors, comment vous êtes arrivé au cinéma ?
Je sais pas trop, mais en gros... mais j'ai l'impression que la littérature s'approche beaucoup plus du cinéma que les autres arts, parce que la littérature, c'est justement des images, bizarrement. Et puis, c'est plus l'envie de raconter des histoires. Et puis, j'ai l'impression que... Ça, c'est vraiment une impression très subjective, mais j'ai l'impression que écrire, c'est plus difficile que faire des films. Donc, j'ai très vite abandonné cette idée, aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a... ça me plaisait pas trop l'image de l'écrivain qui se mettait un peu seul dans sa chambre et tout, je trouve ça trop solitaire, quoi.
D'ailleurs, il y a une image comme ça où vous êtes tout seul dans votre chambre et on voit vous tourner le crayon entre vos mains très longtemps pour finalement saisir une caméra et filmer la page blanche, une façon une déclaration donc. L'écriture, je crois qu'on peut en dire deux mots. Vous avez écrit, je crois que vous avez une activité un peu de critique. Vous avez fait des choses dans les cahiers du cinéma. Vous écrivez sur un site qui s'appelle Dérive TV aussi, je crois. Vous avez fait quelques textes sur le cinéma ?
Non, pas vraiment. En fait, j'en ai fait deux ou trois, pas plus, parce que une fois parce qu'on me l'a demandé, et puis d'autres fois parce que c'était un peu on m'a donné l'occasion de le faire, mais pas vraiment, quoi. Je me sens pas vraiment critique.
En tout cas, moi, j'ai aperçu un texte où vous disiez que le cinéma n'a pas de drapeau, n'a pas de pays. Le pays, c'est le cinéma. Et ici, au fil de votre film, donc, Demande à ton ombre, est en compétition française. Ça vous va ?
Bah, ça me va parce que j'ai l'impression que c'est tout le paradoxe d'être algérien et de faire des films. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai choisi de me faire produire à l'étranger parce que j'ai l'impression que par rapport à l'indépendance qu'on peut avoir quand on se fait produire en Algérie, c'est un peu compliqué. Donc je pars du principe qu'il vaut mieux faire les films qu'on a envie de faire et pas les films qu'on attend de nous. Et c'est plus par rapport à ça. Et franchement, ça ne me pose pas réellement de problème parce que je pense que quand on regarde le film, les positions sont assez claires, quoi.
Lamine Amarkodja, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'écouter quelques chroniques. Le Feedmag se nourrit de chroniques tous les soirs, nombreuses et variées. Tulia, donc, tu es venue nous dire quelques mots ce soir, exceptionnellement, donc, de ce travail que tu as accompagné d'Alexander Chello. Alors, tu l'as accompagné en tant que quoi, ce travail ?
Alors déjà, je suis ravie d'être parmi vous ce soir, merci de m'accueillir. Alexander Chello, en fait, c'est un artiste allemand qui a été aussi présent à la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui a fait différents projets. Et en fait, j'ai travaillé avec lui dans le cadre des Rencontres parallèles. C'est un festival qui a eu lieu justement à Marseille l'année dernière. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai commencé à collaborer avec lui. Après, je le suis, voilà, de près ou de loin, à ma façon. Et donc, c'est un grand plaisir de le retrouver au FID, puisqu'il présente deux projets. Donc, les spots, que vous voyez effectivement à chaque début de film, et aussi le projet dans le cadre du FID Lab, donc Tirana. Donc pour rapidement présenter Alexander, en fait c'est un artiste allemand qui travaille sur la question de la mémoire. Sa technique, c'est effectivement de travailler avec des petits points noirs sur un support, soit calque ou du papier à dessin, et il va réaliser à partir de justement des souvenirs qu'il va évoquer en fonction des lieux où il a été, qu'il a traversé. Il va réaliser différents supports, donc soit c'est des films d'animation qui durent 3 secondes comme par exemple les spots, ou alors des films plus longs qui sont justement en cours comme par exemple Tirana. Donc par rapport à l'idée justement des spots de Marseille, pourquoi ils ont été présentés et comment on en est arrivé là, c'est que en fait Alexander Chelot avait une carte blanche dans les rencontres parallèles et il a décidé du coup de faire un premier repérage sur les lieux qui pourraient diffuser ces fameux spots. Donc d'avoir d'abord une prise de vue un peu de l'ensemble des différents lieux, et ensuite il s'est rendu dans les lieux. Et à partir de ces lieux qu'il a découverts, il a commencé à faire les spots. Alors, par rapport à la technique, l'idée, c'est vraiment de poser le début du souvenir, c'est le premier point qu'il pose sur le papier, et après va venir progressivement s'installer justement le spot. Ce qui est intéressant, c'est que ces spots ont été présentés dans des cadres complètement différents, puisqu'ils étaient présentés dans des ou Havana Café, par exemple, ou dans un kebab, etc. Et qu'on voyait justement des lieux, à ce moment-là, directement projetés. Et aujourd'hui, c'est présenté dans le cadre d'un festival du documentaire, et c'est projeté dans des salles de cinéma. Donc c'est tout à fait différent par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière dans le cadre des rencontres parallèles. Voilà. Ensuite, par rapport justement au travail qu'Alexander accomplit, c'est un travail de longue recherche et aussi notamment sur une longue durée, puisqu'il a commencé depuis longtemps cette recherche par rapport au spot. Et on ne sait pas à quel moment va aboutir justement ce travail-là. Voilà.
Merci Tulia, tu as eu le temps de voir des films quand même aujourd'hui,
pas encore, là que ce week-end. Voilà, je suis là pour suivre vos recommandations par rapport aux films qu'il faut absolument aller voir, et je n'hésiterai pas à y aller du coup après par la suite.
Vous écoutez le Feedmag sur la Grenouille jusqu'à 19h en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée. On va écouter maintenant la chronique de Laure Dieudonné qui est allée rencontrer les animateurs de l'association Peuple et Culture qui planche toute cette semaine sur des points de vue sur le documentaire.
Les extraits du Périscope.
Je suis David Perrin, chargé des actions de médiation au sein de Peuple et Culture Marseille.
Et Béatrice Guyot, médiatrice à Peuple et Culture Marseille.
Peuple et Culture Marseille est une association d'éducation populaire qui existe depuis 2003 à Marseille, mais qui est également rattachée à l'Union Nationale Peuple et Culture, qui elle existe depuis l'après-guerre, depuis 1945. Chaque association a sa propre activité. Sur Marseille, nous avons choisi de travailler sur la langue et l'image. Ça se traduit par des actions autour de la littérature et du cinéma documentaire. Donc en termes de diffusion publique, on organise des diffusions soit dans des cinémas ou dans des lieux culturels, soit aussi dans des lieux qui ne sont pas des lieux culturels. Ce qu'il y a de particulier sur notre programmation, c'est que nous n'avons pas une direction artistique, mais que c'est des groupes d'adhérents, qu'on appelle les groupes d'ateliers de spectateurs programmateurs, qui choisissent une thématique, qui la travaillent ensemble, recherchent des films, et enfin, pour terminer, organisent une séance publique pour échanger avec un public sur leurs recherches. Nous avons aussi une activité d'atelier qui est assez importante, qui est forcément moins visible. On intervient dans des structures très variées, comme des espaces seniors, Emmaüs, une aire de gens du voyage, des lycées, des collèges bientôt, des comités d'entreprise, l'hôpital Latimone et bien d'autres endroits où on mène ces ateliers de programmation également, avec toujours l'idée qu'un groupe puisse s'exprimer sur un sujet à travers des films qu'ils ont visionnés et qu'ils ont choisis, mais aussi des ateliers plus larges d'éducation à l'image, ou encore de création sonore.
Alors cette semaine, on organise un stage qui s'appelle Point de vue sur le cinéma documentaire. Donc à Point de vue, on a mis un S parce que l'idée, c'est d'accueillir différents points de vue. Donc les participants du stage, on a autant de réalisateurs que des diffuseurs, des gens qui sont plutôt dans la production et aussi des médiateurs qui vont par exemple travailler avec des enfants autour du cinéma. Et donc l'idée, c'est de faire se côtoyer et se rencontrer des personnes qui gravitent autour de questions de cinéma, mais qui ne sont pas situées au même endroit, et voilà, de créer une réflexion commune en s'appuyant sur le feed. Ce stage est un stage franco-allemand et on bénéficie de l'aide d'une interprète afin de fluidifier nos échanges. Voilà.
Donc on était d'accord sur...
Dans la démarche de l'éducation populaire, l'idée, c'est pas forcément d'accueillir des gens qui sont tous des spécialistes ou tous des professionnels, mais que on accueille aussi, par exemple, cette année une bibliothécaire, d'autres années on a accueilli des personnes qui étaient des spectateurs... intéressé par le documentaire. Donc il y a vraiment l'idée aussi de partager des connaissances sans être forcément dans un point de vue spécialiste. Quoi. C'est assez ouvert.
C'est pour ça d'ailleurs que la semaine est organisée d'une façon assez simple. Tous les matins, nous sommes en travail et l'après-midi et la soirée sont laissés pour que les participants puissent assister aux séances du FID, en sachant que nous, on propose des séances particulières dans la mesure où on rencontre derrière le réalisateur ou le producteur. Les matinées, il y a des temps de rencontre et les autres moments sont des moments de travail en sous-groupe interne au stage qui leur permet de travailler sur des questions différentes qui concernent le champ du milieu documentaire et de se poser les bonnes questions pour définir les enjeux.
Pour leur faire d'abord expérimenter eux-mêmes.
Ça fait 8 ans que ce stage se tient, toujours en partenariat avec le FID. Pour nous, l'intérêt, c'est évidemment de s'appuyer sur la programmation du FID et sur les films pour avoir des échanges avec ses participants. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a une émulsion pendant ce temps-là où beaucoup de professionnels, de réalisateurs ou de producteurs sont présents, ce qui permet de multiplier les échanges, dans des échanges professionnels ou simplement des échanges autour des films.
Donc bonjour, je m'appelle Caroline Elias, je suis la partenaire allemande et aussi l'interprète du groupe. Et il faut mentionner encore un autre partenaire, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui nous donne son aide matérielle mais aussi financière. Donc on est très très content d'avoir ce partenaire fort qui nous aide. Parce que c'est une formation aux formateurs en fait. C'est une forme des gens qui peuvent après intervenir aussi auprès de jeunes, auprès de personnes en difficulté d'insertion sociale, etc.
Donc si on veut en savoir plus sur l'association Peuple et Culture, il y a le site internet peuple-culture-marseille.org où on va retrouver tous les événements publics mais aussi des informations sur les ateliers qui eux ne sont pas publics mais qui permettent d'apporter vraiment des informations sur la démarche qu'on poursuit.
Voilà, c'est la chronique de Laure Dieudonné qu'on retrouvera demain. Demain, ça sera une chronique. Laure est allée se promener du côté de la compagnie à Belzunce dans l'exposition Mir Muraté. Donc on aura quelques échos de cette exposition qui est reliée au FID de Marseille, cette 23e édition. Donc je vous rappelle que jusqu'à 19h, on est en compagnie de Lamine Amar Khodja. On parle de son film « Demande à ton ombre » qui est présenté en compétition française dans le cadre du FID Marseille. Donc un film qui part d'un retour en Algérie et qui traverse le début des printemps arabes et qui se termine en fait sur... un enfant assis au bord de balcon en haut d'un immeuble et un match de foot Algérie-Maroc, vaincre ou disparaître. Lamine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce titre, Demande à ton ombre? Qu'est-ce qu'il s'agit de demander à son ombre en fait?
Je sais pas si... je pense que c'est pas très important d'expliquer le titre. Par contre, ce qui est important... J'ai l'impression que le vrai fil conducteur du film, c'est que quand les émeutes ont éclaté, par exemple l'année dernière en janvier, je me suis rendu compte que la plupart des gens traitaient les émeutiers de voyous, d'irresponsables, etc. Et j'étais assez choqué quand même par un peu cette prise de position, on va dire.
Cette réaction.
Voilà. Du coup, je me suis posé la question, quelle représentation existe en fait pour ces jeunes-là? Et du coup, l'idée, c'était en revenant au quartier, par exemple, à un moment donné, je reviens au quartier, pendant les manifestations du 12 février, du 19 février, c'était faire ressortir un peu la position de ces jeunes-là, qui sont, par exemple, venus pour détruire un peu les manifs ou ne pas y participer, un peu dans l'idée qu'il y a vraiment une coupure générationnelle entre ces jeunes-là et ceux qui appelaient à manifester. Et du coup, voilà. Du coup, l'idée, c'était un peu de les faire sortir de l'ombre, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y a aucune image pendant toutes les émeutes. On voit juste quelqu'un qui a participé aux émeutes et qui dit pourquoi il a fait ça.
Le film aussi, entre scènes de rue, scènes de manifestation, une caméra immergée dans la vie quotidienne et scènes un peu d'introspection domestique, de tâches ménagères, où vous vous mettez vous-même en scène. C'est venu assez naturellement, cette volonté de vous mettre vous-même en scène ?
Non, pas vraiment. Mais l'idée, c'était de faire un film un peu pour prendre position, voilà, dire moi j'ai vu ça parce que je suis comme ça. Et donc ça peut paraître un peu narcissique, mais j'ai bien l'impression qu'il y a une différence. Enfin, en Algérie, j'ai l'impression que un des problèmes des jeunes, c'est qu'on n'arrive pas à prendre position individuellement. Et du coup, voilà, je me suis dit, quelle légitimité est-ce que j'ai, moi, pour parler de tout ça ? Ben, la seule chose que j'ai vue un peu, qui m'a paru évidente, c'est d'assumer pleinement ma position.
Et du coup, c'est une position qui se cherche, sans arrêt, tout au long du film. On voit que vous cherchez à quelle place vous pourriez être, quelle place pour être juste pour vous. Mais c'est une question, cette question de quelle est ma place là-dedans, dans ce printemps arabe, en tant que cinéaste, en tant que citoyen, où est-ce que je suis. C'est une question que vous posez aussi à la foule, à la ville, parce que dans le film, vous dites... La foule qui manifeste, qui crie, elle est à côté de son cri. La ville, elle est à côté de son mouvement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Pourquoi la foule est à côté de son cri et la ville à côté de son mouvement ?
Parce que je me suis rendu compte que, contrairement à ce que disaient beaucoup de médias, étrangers ou locaux, qu'en Algérie, il ne se passerait rien du tout. Et je me suis rendu compte que moi-même, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, justement parce que j'avais lu ces journaux. Et en allant dehors, la constatation, c'est que j'ai l'impression que les Algériens sont assez fatigués et que la plaie des années 90 n'est pas complètement, guérie. Donc, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup paru absurde que les gens appellent à changer le système alors que les gens sont à côté de leur pompe, quoi.
On vous voit dans le film, donc si je me souviens bien, le 14 janvier 2011, c'est les manifestations Dégage Ben Ali. Et le 15 janvier 2011, on vous voit dans votre lit écrire c'est le 15 janvier et le malaise commence.
Exactement. C'est que bizarrement, le 14 janvier, les Tunisiens chassent Ben Ali. Le 15, il y a une espèce de petit rassemblement à Alger. Où je me rends vraiment compte qu'il y a une vraie différence, un vrai creuset entre ceux qui appellent à manifester et ceux qui sont censés participer à la manifestation. Et je me rends compte du fossé qu'il y a entre l'Algérie et la Tunisie, quoi, par rapport à ça.
Et dans le film, vous y allez en Tunisie, ouais.
Oui, j'ai fait un petit détour et j'étais très 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 emballé parce que c'est la première fois, je crois, que je vois des jeunes d'Arabes qui sont préoccupés par leur avenir dans leur pays. Donc ça paraît un peu bête, mais enfin, c'était assez fort.
À un moment donné, donc vous filmez ces manifestations. Alors il y a différentes façons de les filmer. Il y a par images arrêtées. Vous utilisez vraiment différents registres d'images. Vous utilisez aussi bien des archives de l'INA que des archives de différentes télés sur les manifestations. Plusieurs façons de montrer ces manifestations. Quelque chose qui est récurrent en Algérie et qu'on ne voit pas en Tunisie, que c'est les hommes qui sont dans la rue et les femmes sont sur les balcons.
Ça, je ne l'ai pas inventé. Hein.
Mais ça ne se voit pas en Tunisie, ça, par exemple, dans les images de manif de Tunisie. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui était assez fort, c'est vrai que dans les images qui ont filtré par YouTube sur la Tunisie, c'est qu'on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de femmes qui étaient en avant. Quoi. Et d'ailleurs, pour la petite... quand je rends hommage un peu à la Tunisie pour le 14 janvier... finalement, on n'écoute pas trop la foule et la seule personne qu'on écoute vraiment, c'est une femme qui chante au milieu de la foule.
Alors, Lamina Marcoja, pourquoi ça n'a pas pris en Algérie, selon vous ? le printemps arabe?
Bah, à mon avis, les gens sont fatigués. Sont fatigués.
Oui, mais comme, elle vient d'où cette fatigue?
Je pense qu'elle vient pas mal des années 90, où les gens... parce qu'il y a eu des grosses manifestations en octobre 88 en Algérie qui ont un peu débouché au multipartisme et tout ça.
La décennie noire qui a enchaîné derrière.
Voilà. Et la décennie noire qui a enchaîné derrière. Et du coup, il y a une espèce de mise en relation entre grande émeute et décennie noire. Et du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup cette image dans la tête qui est revenue.
On va faire une première pause musicale dans ce feed mag. Donc, je vous rappelle, on est en compagnie de Lamine Amar Khodja. On parle de son film Demande à ton ombre. Des chroniqueurs nous ont rejoints aussi, qu'on entendra juste après la musique, et notamment Cinebé qui vont nous parler là de plusieurs films ce soir. La musique, c'est Orchestra of Spheres. Ils sont en concert ce soir dans l'excellent festival Mimi qui se déroule jusqu'à demain sur les îles du Frioul.
We all fall.
néo-zélandais d'Orchestra of Sphere, donc en concert sur l'île du Frioul ce soir dans le cadre du festival Mimi. Vous écoutez La Grenouille, c'est le Film Mag jusqu'à 19h en direct du Théâtre National de Marseille, La Criée. Philippe Bérard est programmateur de cinéma, Bernard Favier est cinéphile, tous les deux forment Cinébé. Cinébé que vous avez pu entendre toute cette année, les premiers 3e dimanches du mois à 10h sur les 3-8 de la bande FM. Il nous accompagne également pour ses Film Mag tous les soirs et nous parle des films qu'ils ont vus dans la journée. C'est à vous, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors effectivement, Cinébé a vu pas mal de films, dont le premier, Le Point Aveugle, qui est un film donc, qui est en compétition française, qui est de Sophie Roger. En prologue, une femme dans un cabinet d'ophtalmologie vue à travers une machine devenue à l'écran pupille, alors qu'il est question de trouver le point aveugle. Le point aveugle, vous savez, c'est cette partie infime de la rétine qui ne voit pas. Quel beau départ de film, le point aveugle. Histoire de regard et d'image manquante. Oui, en tous les cas, sûrement à la suite, car nous nous retrouvons dans la séquence d'après cette rétine, ce non-regard, quelque part ce regard manquant, dans un jardin immense, épais, touffu, dans lequel effectivement nous cherchons ce qui est caché, ce qui est manquant. Et nous cherchons à savoir ce qu'il y a derrière, tout de suite. Le problème, enfin, personnellement, c'est que nous voyons à travers une feuille un œil, et pour moi, lorsque l'œil apparaît, c'est le regard qui manquait, et le film, pour moi, se délite un petit peu. Alors Bernard, tu as vu ce film, toi aussi ?
Eh bien moi, je suis un peu de ton avis, c'est-à-dire que ce film démarre merveilleusement par l'histoire du point aveugle.
Extraordinaire.
Où est le point aveugle ? Et ensuite, on voit un paysage à travers le trou d'une feuille de rose trémière, disons. Et à ce moment-là, le film, le cinéma est à l'œuvre par rapport à ce qu'on vient de voir sur l'histoire du trou du point aveugle. Mais la réalisatrice met immédiatement son œil derrière le trou. Donc là, pour moi, tout s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de point aveugle puisqu'il y a un œil derrière. Et le cinéma qui veut nous cacher des choses va nous les montrer à partir de là, mais de façon plutôt un peu dans la brume de la terre normande.
Un autre film, Autoportrait de Simone Fatal, qui est un film en compétition internationale. Autoportrait filmé par fragments il y a quelques années et monté aujourd'hui. Autoportrait, eh bien effectivement, c'est l'autoportrait d'une jeune fille. Lorsque l'on dit filmé il y a quelques années, il est facile de voir que cela se passe en 72, à travers les vêtements, à travers ce qu'on connaît du vêtement surtout, qui est un magnifique repère. La réalisatrice nous a conforté en nous disant qu'effectivement c'était en 72. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ce qui est bien, c'est que on est au balbutiement de la vidéo, on est dans une espèce d'approximation de VHS, on est vraiment au balbutiement, et le film a été remonté aujourd'hui, donc recontemporanéisé, ce qui est très intéressant, mais on reste quand même sur l'insouciance bourgeoise de cet autoportrait où tout se passe bien et où tout va bien, alors qu'on est quand même en 72 et que ça se passe à Beyrouth, à Damas, et qu'au même moment il y a des choses très graves. Alors je comprends tout à fait qu'on filme l'insouciance et on y a droit. Au lieu de filmer les choses très graves ou de nous en parler, c'est effectivement un point de vue qui, bon, moi, me laisse un peu perplexe concernant un film qui, finalement, est plus un film de famille qu'un film qui appartient au documentaire. Voilà, je ne sais pas, Bernard, ce que toi, tu penses de...
Non, tu as tout dit. Et c'est sur l'insouciance de la bourgeoisie, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est quelque chose qui a droit de citer et qui doit être montré. Toute insouciance bourgeoise finit aussi par un narcissisme du même ordre, et à ce moment-là, le film à quelque chose d'un petit peu lassant à cause de ça, à cause de se regarder soi-même. Voilà, moi je crois que même si c'est à Damas et à Beyrouth dans les années 70, on n'en apprendra pas plus.
Alors, un dernier film, je crois que tu y allais voir. Jujuka. Ah, peut-être Philippe, tu avais un autre film aussi.
C'est le même film en fait, Jujuka. Ah, donc quelque chose de bon vient vers toi, Eric et Marc Hurtado. Donc c'est un film qui est en compétition française, que moi effectivement, hélas, je n'ai pas vu. Vous allez vous dire, oh là là, mais si on écoute Cinébé, ils nous disent que des mauvaises choses sur le film. Pas du tout, les films passent, il y en a plein, il y a le choix pour tout le monde, hein, et c'est ça qui est bien avec ce genre de festival. Et Bernard, je crois que ce film t'a quand même bien convaincu.
Voilà, alors Jujuka est un village marocain, célèbre pour sa musique, dans lequel les frères Hurtado se sont transportés pour faire une enquête, mais c'était dans les années 86, ont-ils dit, et le projet qui avait été élaboré à ce moment-là est tombé à l'eau, n'a pas pu se réaliser, malgré des appuis très forts de Paul Bowles, qui était encore en vie et qui résidait à Tanger. Donc, ils y sont retournés il y a quelques temps, ils sont arrivés à financer le film. Ils ont fait, en tant que musicien, un travail d'ethnologue. Ils sont allés sur le terrain voir qu'est-ce qu'il restait de cette musique qui se transmet. Et les musiciens ne peuvent être que les membres de la même famille. C'est-à-dire que si la famille... Ils disaient que dans les années 80, la famille faisait regrouper 70 personnes. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une quinzaine, donc il ne peut y avoir que 15 musiciens. À mesure que la famille décroît, les musiciens décroissent aussi.
C'est une petite mafia musicale.
Mais non, pas du tout. Non, mais c'est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'explication de la musique, c'est une perpétuation de traditions qui remontent à l'Antiquité, pour ce qu'ils en savent, et qui a été confrontée à l'islam, et qui, malgré tout, est une fête formidable qui a lieu après l'Aïd el-Kébir pendant une dizaine de jours. Il y a musique pour tous, pendant, et danse, et pendant une dizaine de jours. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en général, le travail des ethnologues, c'est très très ennuyeux, parce qu'ils vont interviewer les gens, ils les font parler de leur tradition, machin, truc, ça c'est très très pénible. Eux ont fait un véritable film de cinéma, excusez le pléonasme, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bon de le rappeler, qu'il existe des films qui sont des films de cinéma. Et leur travail se rapprocherait pour moi de ce qu'a fait Jean Rouch dans Les Maîtres Fous, c'est-à-dire que le scénario a été écrit avec les gens du village, avec toute la tradition, et tout ce qui peut naître comme fantasme, comme légende enfouie, comme rêve éveillé, se transmet dans cette musique avec un homme qui est revêtu de peau de chèvre, avec une jeune femme qui est la démone qui l'approche, qui quelquefois est jouée par un jeune garçon. Là, il y a une permutation avec un travail de travesti. Mais voilà, ce film dure 62 minutes et pendant 62 minutes, on assiste à un bœuf musical et poétique absolument impeccable.
Merci beaucoup Bernard et Philippe. Est-ce que le film Jujuka repasse, t'as repéré un horaire Bernard ?
Non, c'était sa deuxième et dernière projection.
Deuxième et dernière projection. Donc merci de nous avoir fait bien envie pour ce film qui ne passe plus. Donc un film de cinéma, c'est le cas de Demande à ton ombre de Lamine Amar Khodja, qui est avec nous depuis le début de cette émission. Donc c'est un film qui se déroule principalement dans des espaces urbains aussi et dans des espaces domestiques où Lamine se met lui-même en scène. Il y a une échappée à un moment donné au bord de la mer. Une échappée où on comprend plus ou moins qu'il y a quelque chose qui a été prémédité, une scène de théâtre qui doit se tourner, des textes qui doivent être dits et filmés, tout ça, et on assiste là à l'intervention de personnes qui disent non, c'est interdit, la caméra, et pendant un bon moment on va avoir une image penchée à 90 degrés et on va assister à une scène où on dit mais pourquoi on peut pas, et voilà pourquoi vous pouvez pas. Est-ce que Lamine, vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ? C'était quoi ce moment et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, le lieu en question, c'est Tipaza. Donc, Tipaza, qui est une ville au bord de la mer, à environ 60 km d'Alger. L'endroit est assez connu parce qu'il y a des ruines romaines magnifiques qui donnent sur la mer, et Camus a écrit des très belles pages là-dessus. Mais du coup, ça me plaisait l'idée qu'un autre écrivain se retrouve là rien que pour lire ses textes. Donc c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était juste un écrivain qui voulait lire une pièce de théâtre justement qu'il avait écrite, et il se retrouve avec des flics qui viennent interdire la lecture pour des raisons complètement obscures, et c'est une scène complètement absurde.
D'accord. Vous n'en savez pas plus que ce qui est dit dans le film, alors, sur cette interdiction
Ah oui, complètement, oui. Mais je peux vous dire juste qu'il y a eu un espèce d'effet de groupe qui a fait que, finalement, il n'y a que l'écrivain qui a été embarqué.
Lamine, quel est votre regard sur le cinéma en Algérie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait là-bas d'intéressant ou de moins?
Ben, moi j'ai l'impression qu'il y a des tentatives comme ça de jeunes qui essayent de faire des films de manière indépendante, mais le problème c'est que pour l'instant les systèmes de production sont beaucoup trop présents, et l'État est beaucoup trop présent par son regard sur les productions cinématographiques. Du coup ça ne laisse pas beaucoup les jeunes cinéastes, ça leur laisse pas beaucoup de place pour s'épanouir.
C'est-à-dire il y a de la censure, un peu du même type qui s'est passé au bord de la plage sur le cinéma en Algérie.
C'est un peu plus fin que ça. C'est-à-dire qu'on vous laisse, on vous laissera faire un film, et si vous allez trop loin, bah il y a de fortes chances pour que ça soit votre dernier.
Comment vous voyez-vous le rôle d'un cinéaste dans la société?
Ah, sincèrement, je n'ai pas de grandes idées là-dessus. Mais moi, j'ai juste envie de raconter des histoires, faire pleurer les gens et les faire rire. J'ai pas trop...
Pourtant, c'est un film engagé, demande à ton ombre.
Ah, je ne suis pas sûr. Hein. Pour moi, c'est plus un film existentiel qu'un film engagé. J'ai pas l'impression...
Oui, mais pourquoi un film existentiel, c'est pas un film engagé pour vous?
Ah oui, bah après, ça dépend ce que vous appelez politique, en fait. Parce que pour moi, politique, c'est plus exister parmi les autres.
C'est un peu ça, le film, non? C'est oui. Ça la question du film.
Mais dans ce cas-là, c'est la politique au sens noble du terme, alors.
D'accord. Ouais. Je crois que vous vous occupez d'un ciné-club à Alger.
Plus maintenant, mais je l'ai fait pendant un an. Et c'était assez génial parce que c'était un endroit surtout où les gens pouvaient prendre la parole et dire ce qu'ils voulaient, ce qui est quand même assez rare à Alger.
Et vous montriez quel type de film?
Plutôt des films qui
Il est 18h45, nous dit Adrien.
Plus des films iraniens, italiens, un peu Pasolini, oui, voilà.
Et c'était reçu comment, ce genre de...
Avec beaucoup d'engouement, mais on avait fait une fenêtre aussi sur le cinéma algérien, parce que bizarrement, les films algériens, que ce soit Malik Bentmaïl et Tarek Teghia, qui sont les plus connus... Les gens n'ont pas vu leur film, du coup c'était un peu l'occasion aussi de les faire découvrir à des Algériens. Quoi.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, du FID, Lamine?
Ben, que le film sorte de l'ombre. Non, je suis assez curieux de voir un peu la réaction des gens, parce que finalement, mis à part 4 personnes, et puis la projection qui s'est faite au Beaumet il y a 2 ou 3 jours... Le film n'a pas du tout été vu.
Mmh. Et oui, c'est une première mondiale, c'est ça?
Voilà. Ouais. Et même moi, j'ai envie de le découvrir sur grand écran parce que je ne l'ai pas encore vu.
Et après, il y a une diffusion prévue en Algérie ou...
Ah oui, bien sûr, mais je ne sais pas encore quand. Il faudra organiser ça parce qu'il faut trouver où.
Donc merci Lamine Amarkodja d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci.
Donc je rappelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis, que Demande à ton ombre sera projeté demain, dimanche 8, à La Criée, à 18h30. Et lundi 9, donc après-demain, à 17h, au Bernardine. On va maintenant écouter Claire, la chronique de Claire, qui, si vous avez écouté les FinMag depuis mercredi dernier, le début de cette 23e édition du Fin Marseille, à Marseille, s'est intéressée de près à quelques projets présentés dans le cadre du FidLab. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est un premier film, je crois.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Donc, bonjour, Claire.
C'est un premier film, celui de Gwendal Sartre. Et avant de l'écouter, puisqu'on l'a rencontré, je vais planter un peu le décor. Donc, dans Song Song, il y a 3 personnages. Une vieille maison, un peu monstre parfois, et son jardin un peu diabolique, un peu mystérieux. Il y a aussi un vieil homme, peut-être malade, peut-être même sourd, qui déambule à gare, préoccupé, dans une maison qui est remplie d'instruments et qui est habitée par l'âge. Et enfin, il y a une toute petite jeune fille, mutine, qui s'amuse à agacer ce monsieur, à le séduire, et qui apparaît, puis se dérobe et enfin disparaît. Entre ces personnages, il se tisse une musique assez organique, à la fois précise et diffuse, qui nous emporte et résonne avec nos propres musiques intérieures. Nous avons donc rencontré Gwendal Sartre hier, après la projection de son son. On l'écoute nous parler de son film. Gwendal Sartre, bonjour.
Bonjour.
Song Song est votre premier film et vous avez déclaré en ouverture de séance avoir voulu en faire un hommage à la musique. Hommage à la musique ou question sur la possibilité d'attraper sa musique intérieure, en fait de créer ?
Donc oui, alors ce serait plutôt une sorte de... plutôt de capter une sorte d'intériorité. C'est plutôt une idée générale sur la création, même si la musique est très présente visuellement, et puis aussi c'est l'idée du son dans le film. Mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie chez un compositeur, ça peut être un écrivain, comme moi avec un écrivain ou un compositeur, c'est sur papier. Donc on arrive facilement, parce que l'idée du film, c'était de ne pas savoir ce qu'il faisait, pas savoir son travail, et garder une énigme autour de ça. Mais... C'est une idée de l'acte de création en règle générale, oui, enfin en règle générale.
Cette structure musicale, tant au niveau du nombre des interprètes que de leur configuration, enfin, cette nouvelle pièce marque
Tu veux en dire où, là ?
Je connais très bien votre travail. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, cette structure...
D'accord. Écoute, je t'arrête là.
Ouais. Enfin, je voulais pas rentrer dans la maison.
Non. Faut que j'y aille. D'accord. On m'en parle une autre fois. Tu veux bien ?
Oh, ok, ouais. Allez, très bien. Ciao.
Dans Song Song est perceptible effectivement cet attachement à la musique, mais on sent aussi l'attachement au personnage principal. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de cet acteur ?
Donc le choix s'est fait sur déjà, principalement sur l'écriture. Enfin, ça parle d'un vieux compositeur, âgé, et aussi dans cette idée de ce rapprochement comme ça qu'il a avec cette fille, où comme le personnage est vieux, ça permet de créer plus d'ambiguïté et plus de rapports complexes avec cette personnage de fille qui peut être une muse ou son enfant ou une amante. Enfin, aussi, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc j'avais besoin aussi de quelqu'un qui comprenait le projet, qui me comprenait aussi où on allait. Et puis on partage des idées philosophiques ou intellectuelles ou musicales très proches. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de partager ce moment-là, ce moment avec lui, ce film. Enfin, j'avais toujours envie de le filmer, c'était vraiment un désir de le filmer. Et c'était aussi je savais qu'il allait donner cette complexité que je voulais à ce personnage, ce passé, ce vécu.
L'écriture de Song Song est très géographique. Des plans fixes organisent les espaces qui correspondent chacun à du silence ou du bruit, à l'introspection ou à la curiosité du compositeur. Pouvez-vous nous parler du rôle des lieux dans la construction de ce film ?
Donc, le film a été écrit en forme de scénette. C'est-à-dire qu'avec les scénaristes, je leur ai demandé que je leur ai fait un plan de la maison. Ils savaient qu'il y avait un endroit qui avait un trampoline, ils savaient qu'il y avait un endroit qui avait une cuisine, ils savaient. Et puis je leur ai fait des indications exactes sur les possibilités de son qu'il y avait dans cette maison et dans ce film. Après, l'idée c'est qu'ils m'écrivent, l'idée c'est que chaque scénariste m'écrive une scène, que le son et l'image écrivent la scène et la problématique du film et l'histoire même du film. Enfin, le film se construit, se raconte seulement par ce rapport entre image et son, et non pas par un dialogue ou par un scénario classique. Et donc c'est tout l'idée du film. L'idée du film est vraiment là, dans cette écriture d'image et de son. Et donc, c'est-à-dire de lieu qui fait un certain son et qui provoque peut-être un symbole ou un archétype chez le personnage ou un sentiment chez le personnage et qui ensuite le spectateur interprète comme bon lui semble.
Song Song est donc en compétition française et compétition premier film. Et vous pouvez donc encore le voir demain à 16h dans la petite salle de la Criée.
Merci Claire. Thomas, tu es allé voir le quoi, quatrième, cinquième film asiatique de la série? Non, le quatrième.
Un par jour, ça fait quatre.
Un par jour, ça fait quatre. Et là, c'est un film coréen qui s'appelle Dictée, dont on dit le plus grand bien d'ailleurs.
Qui s'appelle Dictée, c'est un film réalisé en 2012 par la coréenne Lee Min-young et qui est présenté en compétition internationale. Alors c'est un film qui retrace de manière fantasmée et onirique la vie de Teresa Akyung-cha, que j'appellerai Teresa hein, pour des raisons que vous comprendrez. Une artiste américano-coréenne disparue en 1982, soit trois jours après la publication de son livre Dictée, donc le même nom que le film évidemment. Teresa, c'était une artiste qui s'interrogeait beaucoup sur la question du langage et des mots, le tout dans leur rapport à l'image. Et c'est précisément ce que fait ressortir ce film. Alors il faut savoir que l'artiste elle est née en 1951 en Corée, pendant la guerre donc, et que c'est un pays qu'elle a quitté très tôt avec sa famille pour partir s'installer aux USA. Elle n'avait même pas 10 ans à ce moment-là. Et très jeune, donc, elle a été confrontée à cette question du langage, du double langage même, puisqu'elle a dû bien sûr apprendre l'anglais qui n'était pas sa langue maternelle. Et ce qui transparaît dans Dictée, en fait, c'est la souffrance ressentie par Teresa et engendrée par cette double appartenance. Une appartenance qui devient même triple, puisqu'elle a étudié en France aussi, lors de sa scolarité. Et il y a constamment, pendant le film, une juxtaposition de plusieurs langages. On entend du coréen, de l'anglais, du français, souvent en même temps, ce qui accentue un peu la confusion dans laquelle était sûrement Teresa devant la question de son identité, au final. Et à l'image, cette confusion, elle passe aussi par plusieurs choses. Des plans volontairement flous, un morcellement des scènes, l'utilisation d'extraits de livres, de films, qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, comme la passion de Jeanne d'Arc, un film de Dreyer en 1927. Et un choix qui n'est bien sûr pas anodin, puisque Teresa, elle parle entre autres de Jeanne d'Arc dans son livre Dictée. Son livre était en fait une sorte de autobiographie de plusieurs femmes, dont elle-même. Elle parlait également de Jeanne d'Arc, entre autres. Le film Dictée, lui, il communique en permanence donc cette souffrance, cette dualité qui semble habiter Teresa. Et une dualité qui transparaît intelligemment, notamment dans une scène au début du film où on entend une cassette audio de leçons d'anglais avec des phrases du type « des hommes se reposent contre les arbres ». Voilà des phrases qu'il faut répéter pour parfaire sa prononciation. Et pour illustrer chacune des phrases, la réalisatrice a choisi des images fortes de la guerre de Corée. Par exemple, à la phrase que j'ai citée « des hommes se reposent contre les arbres », on voit une dizaine d'hommes attachés à des poteaux en attente d'être fusillés. Au final, c'est ça qui, à mon sens, fait la force du film, c'est qu'en maniant les sons et les images pour les faire exister dans un tout qui est presque incohérent, une fois que nous, spectateurs, on est devant l'écran, on en arrive à plonger littéralement dans l'esprit de cet artiste. On est un peu confus, nous, spectateurs, mais c'est précisément, à mon avis, ce genre de sentiment qui devait habiter Teresa Akyung-cha durant sa vie. Donc pour finir, je dirais que Dictée, c'est un bel hommage qui arrive avec intelligence à retranscrire la biographie, la vie d'une personne et surtout les questionnements qui ont jalonné son parcours, mais tout en s'affranchissant totalement des codes de la biographie au cinéma, justement. Alors c'est un film que je conseille par contre à une condition, bon, qui n'est pas forcément indispensable, mais qui à mon sens enlèverait beaucoup de mystère à ce film. Vous l'apprécierez beaucoup plus en vous renseignant avant, même à minima, sur la vie de Teresa Akyung-cha.
C'est un film qui est encore projeté ?
On peut encore le voir demain, ce sera samedi à 20h45 et au cinéma Les Variétés.
Merci Thomas, tu nous parleras de quoi demain ?
Alors demain, ça sera un très court-métrage de 7 minutes qui s'appelle Error, donc réalisé par un Japonais mais présenté pour l'Allemagne.
Lamine, vous êtes là depuis le 2 juillet dernier, vous avez eu le temps de voir des films au fil ?
Oui, notamment, je vous conseille le très beau film de Nazim Djamai qui s'appelle À peine ombre.
Merci Lamine, on arrive au terme de cette émission. Merci à Tulia, à Laure, à Philippe, à Bernard, à Claire et à Thomas pour leur chronique. Encore une fois, merci à Lamine de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure. Et allez voir son film, Demande à ton ombre, demain et après-demain, ça vaut vraiment le coup.
Merci à vous de m'avoir invité.
Demain, le FIDMAG sera animé par Xavier Thomas autour des festivals de cinéma en Méditerranée avec des responsables de festivals de Tunisie et du Maroc. On va se quitter en musique avec Hakim Amadouche qui joue du oud et qui est en concert ce soir à la machine à coudre. Hakim Amadouche, c'est un des musiciens fidèles de Rachid Taha. Il a collaboré avec pas mal d'autres artistes, Tricky. Et là, c'est un extrait d'un morceau d'un groupe qu'il a formé avec Ahmed Kampaoré et Edmond Odzikian qui s'appelle Oriental Fusion. Mais ce soir, il sera en solo à la machine à coudre à 19h sur la grenouille en direct du Worldwide Festival de Sète, une scène embarquée de 19h à 23h, interview, musique et extrait de live. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt sur Etroit.
صباح ريدو رياض.